cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 10 juin 1987.
Si je dis que la foi seule permet de comprendre l'homme, il n'y a plus de philosophie. Et pourtant, je dois dire que la foi me permet seule de comprendre l'achèvement de la personne humaine. Comprenez bien, il y aurait des rapports analogues entre la loi et le Christ. Le Christ vient achever sans détruire. Et la loi se comprend indépendamment du Christ. Parce que la loi est d'ordre éthique. Je peux comprendre les 10 commandements de Dieu indépendamment de la foi. Et Jésus vient donner l'achèvement. Il y a quelque chose de très analogue. Et je crois que c'est important pour nous de bien comprendre cela. Jésus vient achever et l'aspect chrétien achève la personne humaine. Je crois que c'est ça qu'on devrait montrer très nettement pour bien comprendre les rapports entre philosophie chrétienne et donc philosophie et le rapport avec le point de vue de la foi. Parce que dès que je parle de philosophie chrétienne, la foi est impliquée dedans. Je ne peux pas parler de l'intérieur du point de vue chrétien sans la foi. Vous voyez comme c'est très délicat, c'est tous les rapports entre la nature et la grâce, entre la philosophie et le point de vue chrétien. Alors, je crois que c'est le problème de la personne qui fait le lien. Vous voyez, saint Thomas regarde, lui, nature et surnature dans sa théologie scientifique. C'est indispensable. Mais il faut regarder les rapports de la nature et de la foi du point de vue pratique. Et alors, c'est le problème de la personne. Quel est le rapport entre la personne vue au plan philosophique et la personne chrétienne? Et vous voyez que les rapports sont différents. Faites ce petit schéma. Ça, pour y réfléchir, parce que c'est des problèmes qui sont très délicats. Faut pas aller trop vite. Ici, on peut simplement les poser. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours le problème de la personne qui m'apparaît comme le lieu. Le lieu dernier des précisions de la nature et de la surnature. Alors, c'est ça que nous allons préciser encore. Parce que c'est bien comprendre comment le point de vue de la philosophie première qui constitue le noyau central de la personne, comment l'éthique qui donne le point de vue de la finalité dans l'ordre de l'amitié demande de s'achever dans une théologie naturelle. Autrement dit, le problème de la personne exige le philosophe de se poser la question, l'amitié est-elle l'ultime bonheur de l'homme? L'homme s'achève-t-il dans l'homme? Parce que si l'homme s'achève dans l'homme, la personne se noue dans l'amitié. Mais si il existe une personne première, absolue, qui est le Créateur, selon les traditions religieuses, qui est Dieu, selon les traditions religieuses, et selon la foi chrétienne, nous devons comprendre que la personne ne pourra être parfaitement elle-même que par l'adoration et la contemplation. Et ce triple achèvement de la personne, l'amitié, l'adoration et la contemplation. Et c'est pas commode à bien articuler les trois. Et je crois que les trois ne peuvent être vraiment parfaitement atteintes que dans une lumière chrétienne, éthique chrétienne. Et enfoncer l'articulation, c'est toujours du côté de la finalité. C'est dans la finalité que je peux saisir ce dépassement. Et non pas du tout dans le point de vue de la structure, de la substance ou de la nature. Vous voyez, toute la scolastique a regardé tout le temps le rapport nature-grâce à cause de ça.
Humaine n'est vraiment personne.
personne que dans une attitude religieuse. L'adoration. L'adoration fait partie essentielle de la personne humaine. Je ne peux pas comprendre la plénitude de la personne humaine sans voir l'adoration. Voyez, c'est cette parole que le Saint-Père ne cesse de répéter, que l'homme ne peut être lui-même qu'en se dépassant. Il ne dit pas par rapport à l'amitié, il ne dit pas par rapport à l'adoration et par rapport à Dieu. L'homme ne peut être parfaitement lui-même comme personne qu'en découvrant qu'il est une créature et donc en adorant. Autrement, il n'est pas dans la vérité. Il y a là une exigence de vérité et de vérité pratique qui va très loin. Si la personne humaine veut être vraie comme personne, elle doit reconnaître son état de créature. Et ceci est une exigence, non pas de la substance, mais de la personne. Et c'est une exigence de l'acte, donc de la finalité. Et pour bien cerner où se situe cette exigence essentielle de l'adoration. L'adoration apparaît comme quelque chose d'essentiel à la personne humaine à cause de la finalité. Adorer Dieu, adorer le Créateur, c'est me mettre dans un état de vérité. Et je ne suis parfaitement vrai que lorsque je suis dans cette reconnaissance pratique, affective, c'est une affectivité spirituelle, reconnaissant ma dépendance totale à l'égard de cette source première de mon être, de mon esprit. L'adoration me met dans la vérité. Et l'adoration permet de comprendre que la personne humaine, comme personne humaine, ne peut être vraie qu'en reconnaissant sa dépendance à l'égard du Créateur. Ça va très loin, ça, voyez, comme compréhension de notre vérité pratique. Tant que vous n'avez pas découvert ça, vous n'êtes pas dans la vérité plénière. Parce que vous n'avez pas saisi la source d'où vous venez. Vous n'avez pas saisi le roc sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et donc l'adoration n'est pas quelque chose de, voyez, d'accidentel, secondaire. C'est essentiel au point de vue de la finalité. C'est ce qui fait comprendre pourquoi le refus de l'adoration et de l'attitude religieuse met l'homme dans un état de fragilité, parce qu'il n'a pas atteint la vérité. Et j'allais dire dans un état de dépendance à l'égard de choses fausses. La vérité vous libérera. Et c'est cette vérité pratique de l'adoration qui nous libère. Parce qu'elle nous met dans la vérité pratique de dépendance à l'égard de l'être premier. Et si on ne vit pas cette dépendance pratique à l'égard de l'être premier, nécessairement, le conditionnement dans lequel on est va être pour nous source de dépendance. Mais on ne se libère de tout le conditionnement du milieu dans lequel on est que par l'adoration. Ça, je crois qu'au point de vue pratique, c'est extrêmement net. Alors on pourrait dire que seule l'adoration nous libère de l'angoisse. Parce que l'angoisse, l'aliénation, la culpabilité proviennent du milieu dans lequel on est. Et ce milieu qui n'est pas regardé dans toute sa force, c'est par l'adoration que la personne humaine se libère tant qu'elle le peut, de de l'angoisse, de l'aliénation et de la culpabilité. Donc elle se stabilise, si vous voulez. C'est là où elle trouve sa stabilité. Et cette adoration demande de s'achever dans la contemplation. Adoration et contemplation se tiennent. Je crois qu'il ne peut pas y avoir une adoration parfaite sans contemplation. Il ne peut pas y avoir de contemplation sans adoration au plan philosophique. C'est encore beaucoup plus vrai au plan chrétien. Au plan philosophique, c'est, je peux le dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'adoration sans un appel vers la contemplation. Et vous comprenez pourquoi. Celui qui adore, c'est un être spirituel. C'est l'esprit qui est en moi. Mon esprit, donc mon intelligence et ma volonté, qui, reconnaissant la dépendance radicale à l'égard de l'être premier, à l'égard de ma source, qui est Dieu, reconnaissant cette dépendance, en même temps, il y a un appel à contempler celui qui est ma source, mon créateur. Puisque je reconnais qu'il existe, je reconnais qu'il est source pour moi, de mon être, de ma vie, de mon esprit. Je me pose nécessairement la question. Puis-je le connaître, le contempler? Dès que j'adore, il y a un appel à la contemplation. Je ne peux pas m'arrêter à l'adoration. J'allais presque dire, l'adoration, c'est la condition sine qua non de la contemplation. Mais je ne peux pas m'arrêter. Au sens très strict, l'adoration n'est jamais une finalité. C'est une reconnaissance nécessaire pour la contemplation. Mais c'est la contemplation qui finalise. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il y a trois finalités, vous voyez. Ce que j'ai peut-être dit de temps en temps, en parlant rapidement. Mais si on veut préciser, on doit dire qu'il y a deux finalités, l'amitié et la contemplation. Mais pour la finalité de la contemplation, il faut passer par l'adoration. L'adoration n'est pas, au sens absolu, une finalité. C'est très curieux et c'est très intéressant. Parce que l'adoration constitue l'être religieux en moi. Je suis un être religieux quand j'adore. Si je n'adore plus, je ne suis plus un être religieux. Je deviens un être errant. Le religieux étant essentiellement un être stabilisé. Le vœu de stabilité, c'est rigoureusement religieux. Je me stabilise en m'appuyant de toutes mes forces sur celui qui est mon roc, sur celui qui est ma source. Et je ne peux pas me stabiliser en dehors de ça. Vous voyez ? Mais cette stabilité demande d'aller plus loin. Je retrouve ici, si vous voulez, analogiquement, les rapports qui existent au niveau métaphysique entre substance et acte. Je les retrouve ici entre adoration et contemplation. L'adoration est, dans ma vie pratique religieuse, ce qu'est la découverte de la substance au niveau spéculatif. Parce que l'adoration structure. Un être qui adore est un être qui est vrai. Donc il est structuré. Il sait ce qu'il est et il sait sa valeur et ses limites. Mais l'adoration ne finalise pas. Parce que adorer, c'est reconnaître le primat absolu de la personne divine, de Dieu. C'est un effacement. Je m'efface en face d'un être premier. C'est une politesse substantielle, si j'ose dire. Une politesse métaphysique. Je reconnais que tu es premier. C'est magnifique, Weston. Je reconnais que tu es premier, qu'il doit passer devant moi. Et que si je ne le laisse pas passer devant moi, je suis dans l'erreur. Et donc tout est faussé. Plus rien n'est vrai. C'est une vérité élémentaire et une vérité fondamentale. C'est la pierre angulaire sur laquelle peut se construire tout le reste. Mais une fois que je découvre ça, au plan philosophique, donc au plan éthique, mais éthique religieuse, je vois l'importance dans ma vie de ce qu'est l'adoration. Puisque c'est par là que tout est bien axé. Mais je vois en même temps que ça ne peut pas me finaliser. Mais ça me permet de considérer que tous ceux qui ne reconnaissent pas cela construisent leur personnalité sur du sable mouvant. Je reconnais par là que ma personne humaine ne peut pas être pleinement structurée uniquement par la substance. La substance est un premier moment, mais ce n'est pas ce qui fonde en dernier lieu. Oui, comme tout ça est important parce que ça fait comprendre toutes les erreurs qui existent. Quand on comprend ça, on dit mais alors oui, c'est l'aspect religieux qui est premier, qui est fondamental. Donc commençons tout par l'aspect religieux. Et on sera dans certaines attitudes qu'on verra d'ordre de l'ontologisme. L'homme ne peut se définir que par Dieu. L'homme religieux ne se définit que par Dieu. L'homme dans sa plénitude existentielle et personnelle ne peut se définir que par Dieu. Mais pas la nature humaine, pas l'esprit humain, pas l'intelligence et la volonté. La personne, oui, dans son état existentiel, la personne demande d'être totalement relative à Dieu dans l'adoration. Parce que l'adoration me met dans cet état de relativité absolue vis-à-vis de Dieu. Il faut avoir un regard extrêmement limpide sur l'adoration. Il faut savoir avoir un regard philosophique. Si je reste très très beau, de voir que toute la philosophie me permet d'avoir cette limpidité sur le mystère, sur ce que représente l'adoration. Je pourrais presque dire que toute ma philosophie en définitive est pour ça. Et en même temps que je découvre ce que c'est que l'adoration, je comprends qu'immédiatement mon adoration me conduit à une contemplation. Une contemplation très imparfaite. Une contemplation tout en attente. J'attends que Dieu se manifeste à moi. Vous voyez, le dernier mot de Heidegger sur le problème de Dieu dans sa philosophie, quand il s'est opposé violemment à Valens de Louvain, qui disait que Heidegger était athée. Heidegger a été très blessé par ça. Il a dit pas du tout, ma philosophie n'est pas une philosophie athée. C'est une philosophie de l'attente de Dieu. Dieu, on ne peut l'atteindre que s'il se révèle lui-même. La personne de Dieu ne peut être atteinte que si le « je suis » de Dieu se révèle à moi. Entend dans le fidéisme. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de juste. C'est qu'il y a une petite confusion entre la nature et la personne. Parce que je crois qu'avec la philosophie heideggerienne, je ne peux pas distinguer les deux. Mais au niveau personne, il y a quelque chose de juste. Je ne peux découvrir la
liquide. C'est pour ça que ça te dit toujours à liquide. J'atteins quelqu'un. Il y a quelqu'un sur le trône. Dans l'Apocalypse. Mais je n'atteins pas la personne. Et la personne divine, je ne l'atteins que si Dieu se vient vers moi et se révèle à moi en disant je suis. Et c'est pour ça que la première révélation, c'est du reste étonnant. La première révélation, c'est Dieu qui dit je suis. Je suis celui qui est. Et je dirais, métaphysiquement parlant, ou philosophiquement parlant, ça devait être comme ça. Dieu, dans sa première révélation de relation d'homme à Dieu, de personne à personne, le face à face, l'audace, pour ne pas dire le toupet de Moïse, c'est de dire à Dieu, mais révèle ton nom. Le nom, c'est la personne. Et demande à Dieu son nom, c'est la personne. Révèle ton nom, dis-moi ton nom, pour que je puisse dire, pour que je puisse donner une référence. C'est ça, en définitive. Parce que si je ne connais Dieu que d'un point de vue philosophique, je ne peux pas donner une référence. Je ne peux donner une référence à Dieu que si Dieu lui-même se tourne vers moi. Alors je suis en présence d'un face-à-face dans la foi, mais c'est un face-à-face. Alors ça fait bien comprendre ce qu'est la foi comparativement à la philosophie. La foi, c'est un face-à-face. Dans l'obscurité, mais c'est un face-à-face. La foi est une attente du face-à-face. Et elle n'a pas d'autre raison d'être que d'être attente du face-à-face. Parce que c'est une relation personnelle. Tandis qu'au contraire, au plan philosophique, j'atteins Dieu de l'extérieur. Je dis, il est nécessaire qu'il existe. Mais je ne l'ai pas dans un face-à-face. Je ne peux pas définir la philosophie comme un face-à-face. Ah, vous voyez ? Où se situe ce moment très important du philosophe qui, adorant, comprend que celui qu'il adore, il faut qu'il le contemple. Mais, au plan philosophique, j'allais dire, il le poursuit, il le cherche. C'est une contemplation de chercheur. Partout, il y a la trace de Dieu. Ah, il y a sa présence. Mais je ne le vois pas. Alors, il attend que Dieu se retourne vers lui pour être en présence d'une personne qui le regarde. Tant qu'il n'y a pas ce retour de Dieu vers moi qui ne peut se faire que dans une révélation, je suis en attente contemplative. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait définir la contemplation philosophique. C'est une contemplation d'attente. Et c'est pour ça qu'au fond, on ne voit Dieu que de derrière, si j'ose dire. On ne voit Dieu que par ses effets. Donc on est en état de recherche contemplative. C'est très beau. C'est l'intelligence qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui est en appel, mais qui ne peut pas être satisfaite. La personne humaine est stabilisée par l'adoration. Elle n'est pas stabilisée par la contemplation. Elle est stabilisée par l'adoration. Et elle est en attente de contemplation. L'attente ne stabilise pas. C'est très fatigant, l'attente. Ça demande beaucoup de force, vous savez bien. Quand on attend, il faut une très grande force pour ne pas tomber dans l'impatience. Il y a un moment critique, on dit ça va craquer. L'attente ne nous stabilise pas. Or, la contemplation philosophique est une attente. Et l'image, vous savez, de ces échelles qui ont une base mais qui ne s'appuient pas sur le sommet. C'est tout à fait ça, la contemplation philosophique. on ne s'appuie pas sur Dieu, puisque Dieu nous échappe. Et ce ne sera que lorsque Dieu nous regardera qu'on lui donnera la main. L'image qui est dans Parménide, la déesse qui se révèle et qui donne la main. Je ne peux pas dire au plan philosophique que Dieu me donne la main. Tandis que je peux le dire tout de suite au niveau de la foi. Dieu me donne la main. Et Dieu me dit, viens, c'est pour toi. Alors il fait sortir de mon état de mon état terrestre pour un état céleste. Il fait sortir l'habitant de la terre pour le ciel. C'est ça la foi. L'attente de la vision béatifique. Alors il y a encore une attente dans la foi, mais c'est une attente certaine de la vision béatifique. Tandis que de l'autre côté, c'est une attente, je ne dis pas incertaine, mais c'est une attente pure. Puisqu'il ne peut pas savoir si Dieu un jour se retournera ou ne se retournera pas. J'attends le visage de Dieu. Voilà ce que le philosophe peut dire. J'attends que Dieu se retourne vers moi. Je sais que ma seule béatitude, c'est ce regard de Dieu. Ma seule béatitude, c'est que Dieu me regarde. Mais je ne peux pas dire « Dieu me regardera ». Ça me dépasse. Tandis que le croyant dit « Dieu me regardera », j'en suis certain. Je suis héritier de Dieu. Par la grâce. Vous voyez, c'est toute la différence qui existe entre les deux. Et je crois que ça, c'est très important pour comprendre justement au niveau de la personne humaine comment la contemplation philosophique ne stabilise pas, ce qui fait comprendre comment Aristote dit ce n'est que par moment que je vis ce que Dieu vit éternellement. Cette contemplation, je vois très bien que c'est la seule chose qui peut me satisfaire. C'est la seule chose qui peut donner à ma vie toute sa signification. Tant que je ne suis pas à ce niveau, ma vie humaine n'est pas entièrement finalisée. Personne humaine n'a pas atteint sa plénitude. Oui, c'est très très important de comprendre ça philosophiquement parce que ça fait comprendre combien la contemplation pour l'homme est nécessaire. Et tant que je n'ai pas saisi ça philosophiquement, je le sais bien par la foi. Si je suis chrétien, mais je n'ai pas cette conviction intellectuelle de l'intelligence, ce qui est important, que seul le visage de Dieu peut être pour moi l'absolu. Et ce regard de Dieu que je quête et qui est la seule quête de ma vie, tout le reste, mais c'est ce visage de donne à toute ma vie sa signification. Je n'ai d'attente que pour cela. Et je sais que par moi-même, je ne peux pas. Je ne peux le voir que si Dieu vient vers moi. voyez bien, adoration et contemplation, comment se structure la personne religieuse. Et là, je peux dire que cette personne religieuse qui adore et qui contemple, là encore, saisit que ce n'est que grâce à la révélation chrétienne que cette adoration et cette contemplation pourront prendre possession plénière de moi-même. La contemplation philosophique, comparativement à la contemplation chrétienne, demeure imparfaite. Et par le fait même, la personne humaine restant uniquement dans une attitude d'éthique, de théologie naturelle, demeure imparfaite, demeure en attente. Et donc, elle n'est pas satisfaite. Elle ne pourra l'être que par la révélation. Et je crois que là, encore saisir les relations entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Vous voyez donc ce que nous voulions montrer, que le problème de la personne, nous, la philosophie première et l'éthique, la philosophie première et la théologie naturelle. Essa.